franceinter.fr.
L'Union européenne possède un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme. Il s'appelle Gilles de Kerchove et il est en ligne avec vous, Léa Salamé.
Bonjour Gilles de Kerchove.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour. D'abord les faits. 15 jours après les attentats de Bruxelles, où en est-on de la traque du troisième homme, celui qu'on appelle l'homme au chapeau ?
Alors, bien entendu, je ne peux pas vous répondre, d'une part parce que je ne suis pas opérationnel, d'autre part parce que comme l'enquête est en cours, elle est évidemment confidentielle, mais il y a une très grande mobilisation, tant des services de police que des services de renseignement européens, avec le support, et ça c'est un peu nouveau, d'Europol.
Gilles de Kerchove, qu'est-ce qui a changé depuis 6 mois ? Qu'est-ce qui a changé depuis les attentats de Paris ? Est-ce que la coopération antiterroriste a progressé en Europe ? Est-ce que les services de renseignement échangent davantage d'informations aujourd'hui qu'il y a 6 mois ?
Oui, la réponse est certainement oui, il y a une amplification. En réalité, je pense qu'on se fait, on se trompe en pensant que les services de renseignement n'échangent pas entre eux. Depuis le 11 septembre, voire même avant, ils échangeaient déjà, mais ils le faisaient de manière bilatérale ou bimultilatérale. Ce qui a changé au cours des années, c'est une structuration progressive, n'est pas encore suffisante, de leur coopération. Mais le grand défi n'est pas tellement celui-là, c'est plutôt celui de convaincre les services de renseignement d'utiliser les plateformes européennes comme par exemple Europol et comme le réseau informatique Schengen, le SIS.
Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore réticents à utiliser Europol ou le SIS? Alors, que vous appelez le SIS?
Le SIS, il y a des progrès considérables. Ça répond un peu à votre question, c'est que si je prends simplement les signalements aux fins d'observation discrète, qui est le plus utile pour les services de renseignement, on est passé de 1000 signalements à pratiquement 8000 signalements en quelques mois, donc ça c'est assez remarquable. Europol, c'est un peu plus compliqué, parce qu'Europol est une agence de coopération policière et les services de renseignement préfèrent travailler entre eux.
Est-ce que ce n'est pas le moment, Gilles de Kerchove, de faire ce fameux FBI européen ? Beaucoup comparent avec la situation avec les États-Unis en disant, est-ce qu'on peut imaginer de lutter contre le terrorisme aux États-Unis avec 50 services de renseignement qui seraient concurrents dans les 50 États de américains ? C'est pourtant un peu ce qui se passe en Europe, la concurrence des services de renseignement. Vous dites qu'il y a des progrès, mais tout de même, il y a encore des problèmes. Et pourtant, vous n'êtes pas favorable à la création de ce FBI européen. Pourquoi ?
Alors, ce n'est pas exact. Ça a été une conclusion un peu rapide qui a été tirée d'une interview que j'ai donnée. Je ne suis pas hostile. Ce que j'ai simplement dit, c'est que juridiquement, il n'est pas possible de le faire dans le cadre institutionnel de l'Union, simplement parce que les traités ne nous donnent pas de compétences en matière de renseignement, et comme on n'a pas de pouvoir juridique, on ne peut pas le faire. Mais ça n'empêche pas les États membres de le faire. Ils pourraient très bien faire une sorte de structure commune entre eux, en dehors du cadre institutionnel de l'Union, ce que j'appellerais, pour faire simple et pour faire bref, une sorte de Schengen du renseignement, rien ne s'y oppose. Et ceux qui en sont partisans pourraient en prendre l'initiative. J'ai dit, par exemple, le Premier ministre belge qui a lancé cette idée, bien, il pourrait prendre l'initiative de réunir quelques États membres autour d'un
Mais
projet.
Qu'est-ce qui bloque pour l'instant ? Pourquoi ? Quelle est la réticence au niveau des États de coopérer au niveau européen ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est que chacun est jaloux de ses informations, de ses renseignements. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, je veux être très clair. Ils coopèrent beaucoup. La question est simplement de savoir, d'une part, s'ils doivent un petit peu plus structurer leur coopération, et d'autre part, comment alimenter les plateformes européennes en renseignement, en matière policière, l'alimentation est de s'améliore de jour en jour. Qu'est-ce qui bloque ? Je dirais qu'il y a des éléments tout à fait objectifs qui sont liés au métier du renseignement, la protection des sources, les méthodes de collecte de l'information. Et donc, il y a des éléments objectifs et puis il y a une question de culture. Vous savez, moi je dis souvent, il a fallu plus de 30 ans Edgar Hoover pour imposer le FBI aux polices des États aux États-Unis. Et c'est une fédération, c'est un État fédéral. Mmh. Nous ne sommes pas un État fédéral pour le moment.
Alors, il y a le FBI européen et puis il y a l'autre serpent de mer, si vous me permettez, le PNR. Au lendemain des attentats de Bruxelles, il y a 15 jours, Manuel Valls a exigé que le Parlement européen aille très vite et qu'il adopte enfin ce PNR, ce Passenger Name Record, cette mise en commun du fichier des passagers aériens européens. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, la majorité des députés européens bloquent toujours. Ça devait être adopté en avril-mai, est-ce que ça va l'être ?
Je pense que ça va l'être. Je pense qu'il y a un accord, il y a simplement sans doute un lien que le Parlement fait avec une autre législation sur la protection des données, mais je suis assez confiant que ça se fasse en avril. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ait fallu 5 ans entre la proposition de la Commission et l'adoption finale de cette législation. Enfin, les États s'y préparent, la Commission finance les agences nationales qui vont traiter ces données-là. Donc, en fait, les choses avancent et je suis assez confiant que ce sera opérationnel rapidement.
Le PNR est très critiqué par beaucoup de députés européens qui disent que ça va porter atteinte aux données personnelles des passagers, que ça va coûter trop cher pour un résultat incertain. Est-ce que c'est la solution miracle ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement de mettre en commun les fichiers des passagers aériens européens ? Qu'est-ce que concrètement ?
C'est un outil dans une boîte à outils. Ce n'est pas l'outil unique et ce n'est pas l'outil principal, c'est un outil très important. Nous avons plus de 5000 jeunes Européens qui sont partis se battre en Syrie et en Irak, et la plupart du temps, maintenant on s'est amélioré, on détecte assez rapidement des signes de radicalisation, mais il y a des cas où on ne le détecte pas. Et donc c'est très important d'utiliser cet instrument lorsqu'ils se rendent en Syrie ou reviennent de Syrie, pour détecter les mouvements suspects de personnes qui n'ont pas été nécessairement identifiées initialement. Et donc, pour faire bref, si vous, sur la base de ce que le renseignement vous dit, vous connaissez quelques paramètres qui sont assez communs de ceux qui se rendent en Syrie, vous les mettez dans des algorithmes et l'on passe à travers les milliers de passagers pour isoler ceux dont on pense, ceux qui rencontrent les caractéristiques de ce que l'on pense être la caractéristique commune de ceux qui se rendent en Syrie ou reviennent de Syrie.
La Belgique est beaucoup critiquée. Certains ont parlé d'angélisme, de naïveté. D'autres ont pointé la faiblesse de ses services de renseignement. Est-ce que ces critiques sont justifiées ?
Ce n'est pas propre à la Belgique. Je veux dire, la Belgique est un pays très ouvert. C'est un pays qui connaît malheureusement... Alors ça, c'est peut-être la question de la radicalisation dans certaines communes, un nombre très élevé pour sa taille de citoyens qui sont partis se rendre en Syrie. Et il y a eu certainement au cours des années, en raison d'une dette importante et de la volonté de la Belgique de se qualifier pour la monnaie unique, des réductions de budget. Et donc effectivement, il y a un réinvestissement qui est en train de se faire et qui est bienvenu. Mais je ne dirais pas que la Belgique, comme on cherche à la décrire, est le maillon faible. Nous avons d'excellents enquêteurs, d'excellents services de police et de justice.
Qui n'ont pas empêché que Salah Abdeslam reste 4 mois à Molenbeek sans être inquiété.
Effectivement, mais comme le fait remarquer le Premier ministre, il a fini par être arrêté vivant, sans aucun dommage collatéraux auprès des civils. Et effectivement, d'autres ont fait remarquer que le préfet Erignac est resté caché pendant, non pas 4 mois, mais beaucoup plus. Donc vous savez, on peut toujours
faire comparaison. Vous pensez vraiment que c'est comparable ?
Je pense que quand on cherche quelqu'un et qu'on met les moyens de police, on peut comparer, oui.
Manuel Valls, hier soir, déclare « la minorité salafiste est en train de gagner la bataille idéologique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'on est dans une bataille idéologique en ce moment ?
Alors, c'est la grande question qui divise les experts, qui est celle du rôle exact que joue l'idéologie islamiste extrémiste dans le processus de radicalisation. Et pour faire tout à fait simplifier, il y a certains, comme notamment Gilles Kepel, qui pensent que c'est un facteur qui nourrit assez fort la radicalisation, et d'autres, comme Olivier Roy, qui pensent que c'est quelque chose qui intervient tout à la fin du processus.
Et votre avis ?
Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que l'idéologie joue un rôle important, et je pense aussi qu'on serait bien inspiré de réfléchir aux moyens de développer un islam européen. Je pense que c'est très important pour notre sécurité collective, et il y a des États qui ont des politiques assez différentes. Je pense que chacun explore, personne n'a vraiment la solution, mais c'est une question sur laquelle il faut se pencher, en effet.
On y réfléchira. Merci beaucoup, Gilles de Kerckhoff, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée à vous.
Merci, Léa Salamé. Il est 8h-3.